édition du 14 juillet 2022. Salut à Bernard de Rome de notre part aussi.
Bonsoir.
Bonsoir. Simon, comment ça va?
Ça va bien toi, Mathieu?
Ben oui. Ben oui, Marie-Ève est avec nous aussi.
Oui, je suis là.
À la console pour l'instant. Donc, nous sommes les trois réunis après une émission où il y avait seulement Simon et Marie-Ève il y a deux semaines.
On a réussi à s'en sortir.
Avec l'invité Monkey, en plus. Ouais. Hein? Toute une entrevue. J'ai écouté ça avec intérêt dans les jours suivants sur notre page, sur le site de Choc, où toutes nos émissions sont disponibles en balado.
Et où ailleurs, donc?
Oui, aussi. Sur notre site à nous. On les met aussi à chaque deux semaines à patriotesanonymes.info. Donc, émission toujours sur les enjeux de sécurité nationale, de frontières, de racisme, de droits humains. On parle des luttes aussi qui se passent dans différents endroits dans le monde. Donc, mon nom est Mathieu, je ne l'ai pas dit, évidemment. Donc, aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler, entre autres, de l'Allemagne, de Ceuta et Melilla, un point chaud actuellement dans l'actualité internationale. On parle aussi du Royaume-Uni, de l'Équateur, de la Norvège. Un nouveau petit thème, sécurité nationale, droite canadienne, aide internationale. Simon va nous en parler tantôt.
Oui, avec la droite canadienne aussi.
Exactement, dans quelques instants. Et aussi de la musique, on aura trois pièces musicales, donc 70 minutes d'émission en direct actuellement, 18h30 à Choc à l'UQAM, sinon en balado dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, bienvenue à tout le monde. Et je pense qu'on va commencer avec quelques notes de musique et ensuite je vous parle d'un autre point chaud de l'actualité. Journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh a été tuée en mai dernier à Jérusalem par un tir d'arme à feu, évidemment. Je vais vous parler un peu des différentes enquêtes qu'il y a eu pour savoir qui a tiré et si c'est intentionnel ou pas. Mais auparavant, vous vous rappelez peut-être de ces obsèques qui avaient été une catastrophe avec la police qui chargeait la foule et les porteurs du cercueil quand même. La police israélienne a conclu sa propre enquête interne sur son intervention lors des funérailles, mais n'a pas dévoilé le contenu de ses conclusions. Ça va rester secret. Hein? C'est merveilleux. Tout ce qu'on sait, c'est que le commandant de la police a déclaré « On ne peut pas rester indifférent à ces images dures et nous nous devons d'enquêter afin que les événements sensibles de cet ordre ne soient pas perturbés violemment par des émeutiers. » Je ne sais pas s'il parlait de ses propres policiers en termes d'émeutiers, mais c'est un peu ça qu'on a vu dans les images qui ont fait le tour du monde.
Le cercueil est presque tombé.
Exactement. La police qui charge il y a quelques semaines. Donc, il y a ça d'un côté. Sinon, au niveau de l'enquête sur sa mort dans les territoires occupés en Cisjordanie. Donc, elle a été tuée le 11 mai par un tir des forces de défense israéliennes, a conclu le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Je les cite, toutes les informations que nous avons recueillies, y compris de l'armée israélienne et du procureur général palestinienne, corroborent le fait que les tirs qui ont tué Mme Abu Akleh et blessé son collègue Ali Samoudi provenaient des forces de sécurité israéliennes et non de tirs indiscriminés de Palestiniens armés, comme l'affirmaient initialement les autorités israéliennes. Et que c'était profondément troublant que les autorités israéliennes n'aient pas ouvert d'enquête judiciaire sur l'événement quand ça concerne leurs propres militaires, finalement. Ensuite, les États-Unis ont jugé que la journaliste avait vraisemblablement été tuée par un tir provenant d'une position israélienne, sans raison de croire que sa mort aurait été intentionnelle. Ça, c'est une deuxième enquête. Ah. Les experts américains à qui l'autorité palestinienne avait confié la balle ayant tué la correspondante vedette d'Al Jazeera n'ont toutefois pas pu atteindre de conclusion définitive quant à l'origine du projectile. Fait que là, on a deux enquêtes différentes avec des résultats différents. Et sinon, ces jours-ci, Joe Biden est en tournée dans la région. Ça a commencé le 13 hier. Ça se poursuit jusqu'à samedi.
Il fait les stades.
Il fait les stades dans des pays très, très controversés. Donc, à tournée au Proche-Orient, ces trois étapes, c'est Israël, Cisjordanie, Arabie Saoudite. Mm. Le président Joe Biden doit cohabiter avec deux encombrants fantômes, ceux de Jamel Khashoggi, le journaliste saoudien tué en Tunisie par le régime de l'Arabie Saoudite, et de Shirin Abu Akleh, évidemment. Le souvenir de ces deux grands noms du journalisme arabe réduit au silence par des représentants d'États alliés autoritaire des États-Unis, ben, plane sur son voyage actuellement. Et un peu en réaction, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ce voyage-là dans ces deux pays-là, à cause de tout ce qui se passe, évidemment, dans ces pays alliés des États-Unis.
Mais le Yémen aussi.
Oui, oui, tout à fait. Ben, il n'ira pas au Yémen.
Non, non, je sais, mais l'invasion, le blocus.
L'Arabie Saoudite, les bombardements, etc., oui. Et donc, pour un peu essayer de gagner du temps, le secrétaire d'État Anthony Blinken a invité la famille de la journaliste Abu Akleh à venir à Washington pour une réunion. Mais là, ils sont sur place actuellement, lui et Biden. Je le cite, le gouvernement américain est très impliqué pour déterminer ce qui s'est passé exactement autour des circonstances tragiques de sa mort. Là, je viens de vous dire qu'ils disent qu'ils ne savent pas, finalement. Et la famille de la correspondante réclame, elle, un entretien lors de la visite de Joe Biden cette semaine en Israël et en Palestine. Dans une lettre adressée au président américain écrite par le frère de la journaliste, la famille se sent trahie par la réponse lamentable de l'administration américaine sur les circonstances de la mort de leurs proches. Donc, c'est ça la situation. Donc, il y a eu des enquêtes. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de suite. On sait qu'elle a été tuée par une balle israélienne d'un fusil militaire israélien, mais sinon, on ne sait pas plus que ça. Et pendant ce temps-là, Joe Biden va se promener voir ses amis en Arabie Saoudite et en Israël. Oui, Marielle?
Je faisais des coucous que Joe Biden va faire avec la main comme oui, ça,
oui,
pendant
oui,
sa
oui.
promenade.
Oui, 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 oui. J'espère qu'il va bien manger.
Ouais, je pense qu'il va y avoir un énorme cortège le long de... En tout cas.
Il va y avoir des manifs anti-coup en Jordanie, ça c'est
sûrement.
Sûr. Oui, ça c'est clair. Donc voilà pour cette première nouvelle information suivie donc de l'émission. Je passe donc la parole à Simon qui nous ramène au Canada, mais avec des... Les antennes internationales.
Oui, ben des enjeux diplomatiques aussi. Donc, comme on disait, on n'inaugure pas une nouvelle capsule, mais c'est droite et diplomatie canadienne. On va appeler ça comme ça.
Parfait.
Premièrement, vous parlez d'une enquête un peu troublante de Press Progress, reprise par Pivot.Québec. Ça se trouve facilement en ligne si vous cherchez le titre « Des conservateurs de haut rang à une conférence secrète niant l'histoire des pensionnats autochtones ». C'est la conférence annuelle Civitas, tenue dans un hôtel de Calgary fin avril. Civitas fonctionne selon la règle de Chatham, c'est-à-dire que le programme, les invités, les échanges, tout doit demeurer complètement secret. Et on parle ici de tout le gratin de droite et d'extrême droite du Canada, surtout du Canada anglais, si j'ai bien compris. Il n'y avait pas de Christian Rioux là, ou d'autres Parisiens d'opérette. Le programme secret de cette année a été obtenu par Press Progress. On peut même le consulter au complet dans l'article de Pivot. Donc, on a pu en savoir un peu plus sur les panélistes, sur les sujets qui ont été abordés. Donc, le grand remplacement, l'immigration qui menace la sécurité, l'économie et l'identité, comment combattre le lobby trans, comment augmenter la natalité caucasienne au Canada, comment affronter la révolution woke. Ça a l'air d'une caricature, mais c'est tous des ateliers qui étaient offerts.
Je comprends que c'est secret, hein? Il doit avoir honte un peu. Hein?
Ben oui, surtout, imagine ça, c'est juste les titres, imagine y assister.
Donc, ouais, parmi, en même temps, c'est un peu aussi un secret de polichinelle, dans le sens où on n'est pas très surpris du contenu de ces ateliers-là, quand même.
Ben non, on a juste à lire certains éditoriaux qui reprennent tout le temps ces mêmes marottes-là.
Exact.
Puis, bon. Donc, parmi les personnes présentes, des gestionnaires de sites web racistes, des auteurs anti-immigration, des lobbyistes pro-pétrole, des religieux, un nom un peu plus connu, Barbara Key, qui est columniste au National Post, Roy Epen, je ne sais pas si je prononce bien, qui est candidat médecin monarchiste et anti-choix de Éric Duhaime aux prochaines élections provinciales. En fait, beaucoup de députés conservateurs provinciaux et fédéraux, des ex-conseillers de Stephen Harper et d'Andrew Scheer, comme Tom Flanagan, qui présentait un panel particulièrement douteux. Si on traduit en français, ça donne « Les pensionnats autochtones et le problème des tombes anonymes ». Donc, les tombes anonymes ne sont pas un problème en soi pour lui, mais le récit qui est autour de ça. Tom Flanagan a souvent répété dans le passé que les pensionnats autochtones, c'était visionnaire et que les charniers découverts un peu partout au Canada, ce seraient des fausses nouvelles. Tout comme tout ce qui serait positif autour des pensionnats serait censuré par les cancellateurs woke qui auraient construit un récit fictif exclusivement négatif. Donc, on se fait entourlouper aux apatrides, je pense.
Ah oui, écoute, on est vraiment naïf.
Oui, brainwashing. J'en dirai pas plus là-dessus. Il faut vraiment aller lire l'article de Pivot.Québec qui, je le rappelle, s'appelle « Des conservateurs de haut rang à une conférence secrète niant l'histoire des pensionnats autochtones ». On parle plus en détail de certains invités. On fait des liens entre eux et les groupes violents d'extrême droite. Il y a 1 million d'horribles citations racistes dans l'article. J'en ai choisi une pour vous.
Ah.
C'est de William Gardner, le fondateur de Civitas. Je commence, attention. Le taux de décès élevé dans les pensionnats n'était pas causé par des abus ou de la négligence, mais par la constitution génétique des enfants autochtones, ce que j'appelle leur biochimie indienne.
Ah, écoute, on a manqué ce party-là, hein?
Ça devait être le fun, ou point de vue party, pas sûr.
5 à 7 doit être le fun, oui.
Je n'ai même pas capable de m'imaginer. Mais bref, pour revenir à la citation raciste de M. Gardner, ça a été démontré à 1000 reprises que ce sont justement les conditions de vie misérables dans les pensionnats qui étaient favorables aux maladies infectieuses, dont la tuberculose, qui est l'une des principales responsables de toutes ces morts qu'on a anonymisé. Je sais pas si c'est un terme qui existe.
Voilà, parfait, sinon.
On s'en va sur le front diplomatique. Premièrement, le Canada, qui est un des derniers pays à interdire toute forme de collaboration entre ses ONG, les ressortissants canadiens, qui sont sur le terrain en Afghanistan, et les talibans. Donc, ce qui rend impraticable le travail humanitaire, puisque c'est impossible de contourner maintenant les talibans qui forment le gouvernement depuis... un an, peut-être?
Un peu moins qu'un an.
Depuis le mois d'août, je pense, 2021. C'est encadré par la loi antiterroriste qui date de bien avant que les talibans forment le gouvernement. Donc, il y aurait peut-être besoin d'une petite mise à jour à ce niveau-là parce qu'on n'a plus le choix maintenant de passer par les talibans. Mm-hmm. Plusieurs associations demandent des assouplissements, que la collaboration puisse se faire à l'intérieur de certains paramètres, évidemment, qui est dans le respect des sanctions, mais sans menace de poursuite ou de peine de 10 ans d'emprisonnement au Canada pour toute forme de collaboration. Avec le gouvernement afghan. Le ministre canadien du Développement international, donc Arjit Sajjan, a annoncé être en réflexion pour amender la loi, mais il n'a pas annoncé d'agenda législatif clair. Donc, à suivre, surtout que les besoins étaient déjà immenses en Afghanistan et avec les tremblements de terre successifs, dont un très gros le 24 juin dernier, les besoins ont été décuplés. Dernière petite nouvelle canado-diplomatique, on va ouvrir une ambassade à Kigali. Donc, deux raisons. Ben, le Rwanda fait partie du Commonwealth et surtout, on veut essayer de diminuer les influences chinoises et russes en Afrique, dans la région, au centre de l'Afrique et en Afrique en général. Peut-être aussi, je ne sais pas, pour protéger des intérêts particuliers canadiens, ou par souci des droits humains. Donc, on demandera à la CDI de nous éclaircir là-dessus.
Oui, et à Paul Kagame aussi, oui.
J'arrive à Paul Kagame bientôt. C'est un prophète.
C'est un des meilleurs, c'est pour ça.
Alors, donc, Justin Trudeau et Mélanie Joly ont passé plusieurs jours à Kigali pour le sommet du Commonwealth avec plein de chefs d'État. Le prince Charles était là, donc je ne sais pas s'il a fait quelques petites stépettes comme en Barbade et dans les Bahamas. Boris Johnson était là aussi, donc je ne sais pas s'il a entonné son maintenant célèbre chant du cygne. La haute voltige. Il y avait plusieurs dirigeants africains qui avaient voté contre ou qui s'étaient abstenus lors du vote pour une résolution de l'ONU condamnant Moscou pour son invasion de l'Ukraine. Donc, j'imagine que l'ambiance autour de la table devait être fort sympathique. La question des céréales ukrainiennes et russes a été abordée parce que une bonne partie, on le sait, est exportée en Afrique, soit comme marchandise commerciale, soit via des programmes, le PAM, entre autres, qui gère beaucoup de programmes humanitaires de l'ONU. La circulation des céréales souffre beaucoup de la fermeture des ports sur la mer Noire. Donc, le Canada a essayé un peu de placer ses pions, qui est un gros producteur de céréales, un peu comme il le fait pour le gaz et le pétrole en Europe, parce que la guerre, c'est les affaires.
C'est payant.
Sinon, dernière toute petite note, Justin boycotte toujours les costumes traditionnels en voyage officiel, donc il n'avait pas mis son plus beau boubou en motif de girafe. Sur toutes les photos de voyage que j'ai pu voir, il était malheureusement en complet cravate très beige ou bleu foncé.
Ah, fait qu'il n'a pas pris le complet noir de M. Kagame, qui a l'air un peu mafieux, là.
Il est tout... Oui, c'est vrai.
Toujours en complet noir.
De soleil noir.
Oui, exactement. Il y a un Télex dans l'oreille aussi.
C'est son propre garde du corps.
Merci, Simon. Ça
fait plaisir.
Donc, on va aller avec quelques notes de musique et on s'en va en Norvège. Donc, en Norvège, ben oui, il y a à peu près une semaine et demie, je vous lis la nouvelle, le titre, le début. Le 4x4 du chef du groupe Stop à l'islamisation de la Norvège a fini sur le toit sur une autoroute. Oh. Après avoir brûlé un Coran, des activistes d'extrême droite ont été pris en chasse par deux femmes sur une autoroute. La police norvégienne a confirmé avoir arrêté les deux femmes, dont la conductrice, accusée d'avoir volontairement percuté le 4x4 de Lars Torren, chef du groupe. Les cinq passagers ont été légèrement blessés et l'un d'entre eux a dû être conduit à l'hôpital. Lars Torren et d'autres militants se sont rendus à Mortensrud, une banlieue d'Oslo où vit une importante communauté musulmane. La poignée de militants militantes a déposé alors un Coran en feu au milieu d'un petit carrefour, suscitant rapidement la réaction d'habitants tentant d'éteindre les flammes. La scène a suscité rapidement un petit attroupement et des protestations, notamment d'une femme se saisissant du livre Ensemble en conspuant les militants anti-islam. Voilà. Fait qu'après ça, il y a eu une poursuite et ils se sont retrouvés sur le toit et les deux femmes ont été arrêtées. Mais ça a quand même frappé l'imaginaire en Norvège. On rappelle que plusieurs militants d'extrême droite scandinave anti-islam, dont le suédo-danois Rasmus Paludan, se sont fait une spécialité ces dernières années de brûler des Corans dans des quartiers à forte population musulmane.
Devant des mosquées, souvent.
Oui, oui. Devant la population qui va à ses occupations, évidemment, aussi. Faut savoir qu'en Norvège, l'incident est intervenu une semaine après une fusillade mortelle en plein centre de Oslo, considéré par les enquêteurs comme un acte de terroriste islamiste, entre guillemets. Ça, c'est qu'un Norvégien d'origine iranienne est soupçonné d'avoir tué deux hommes et d'avoir blessé 21 autres personnes en ouvrant le feu près d'un bar gay dans la nuit du 24 juin, alors que les festivités liées à la marche des fiertés LGBTQ battaient son plein à Oslo. Donc, c'est ça le contexte, un petit peu. Donc, les deux femmes qui ont renversé, écoute, on peut pas dire que c'était pas une bonne idée, hein, Marie-Ève?
Ben, c'est de l'action directe.
C'est de l'action directe, immédiate en plus, hein, c'est 1-2.
C'est ça. Il y a des vidéos de ça, je crois.
Oui, aussi. Des vidéos, allez voir ça. Il n'y a pas de blessés graves, il n'y a pas rien de ça, mais c'est quand même assez spectaculaire. Il y en a qui sont habiles, disons. Puis en plus, il y avait un 4x4 camouflage. Il était très subtil, les bonnets. Donc, fait qu'on reste en Norvège pour la musique. On va aller écouter le groupe Pompoko, la pièce Time, tirée d'un EP, This Is Our House, sorti en janvier dernier. C'est un quatuor d'Oslo, justement, qui existe depuis 2017, qui ont sorti 2-3 albums. Ils font un punk indie. Et le groupe est leadé par, je vais faire un Claude Kenville de moi, Ragnhild Fangel. Donc, on y va avec Pompoko. Thank you. Pompoko, la pièce Time. Pompoko, c'est le nom aussi d'un jeu vidéo, d'un dessin animé très connu en Corée et au Japon. J'imagine que quand on cherche, en tout cas sur un moteur de recherche, on tombe, ça prend du temps à tomber sur le groupe norvégien. Donc voilà pour cette première pièce. Marie-Ève, on revient ici, Québec-Canada, on parle d'enjeux d'immigration. C'est bien ça?
Ben oui.
Écoute, je te passe la parole.
Écoute, on va surtout parler, en fait, parce qu'il y a beaucoup été question là, du chemin Roxham en Montérégie depuis le début du mois, principalement parce que les traversées y ont atteint des nombres records. Entre janvier et mai, il y a un peu plus de 13 000 demandeurs d'asile qui ont emprunté cette voie d'accès-là entre les États-Unis et le Canada. C'est un petit chemin rural, là. Il y a un pic qui a été atteint en mai avec le passage de près de 3 500 personnes en un seul mois. Puis durant certaines journées, il y a environ 2 000 personnes qui utilisent cette route-là pour arriver au Canada. Mais évidemment, c'est clair que dans un autant d'arrivées, tu sais, dans un contexte de crise du logement puis de pénurie de logement, ça constitue un défi en soi. Mm-hmm. D'ailleurs, si vous vous rappelez, là, en août 2017, les installations du Stade olympique de Montréal avaient été réquisitionnées, tu sais, pour loger justement des demandeurs d'asile. Et là, actuellement, à Montréal, les lieux d'hébergement qui sont gérés par le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, qui est financé par le provincial, sont au maximum de leur capacité, qui est de 1200 lits, et qui sont répartis, ces lieux-là sont répartis entre l'hôtel Hyatt, qui est anciennement là, la place du Puy, mm-hmm. et au centre, ça c'est au centre-ville, puis un YMCA dans l'ouest de l'île. Donc, face à cette situation-là de pénurie de place, le gouvernement fédéral avait déjà réservé au début de l'année 885 chambres d'hôtel dans la grande région de Montréal, qui servent entre autres à accueillir là, des demandeurs d'asile non vaccinés pour qu'ils fassent leur quarantaine de 14 jours. Mm-hmm. Puis de ce nombre-là aussi a également été revu à la hausse. Donc là, actuellement, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dispose en tout là, en plus évidemment là, des 1200
lits.
Des hôtels, oui, oui. C'est ça, dispose donc de 1143 chambres, mais 80% sont actuellement occupés, fait qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. En tout cas, pas beaucoup. Et le problème, c'est que cet hébergement-là, à court terme, se prolonge parce que, comme je disais, ben la plupart des personnes migrantes sont incapables de se trouver un autre logement. Fait qu'ils restent là, tu sais. Il y a une des solutions qui a été mise en place par Ottawa. Ça a été d'agrandir l'espace d'hébergement géré par l'Agence des services frontaliers située directement à la frontière canado-américaine. Depuis 2017 et l'arrivée d'une première vague de milliers de migrants, il y a des dizaines de roulottes qui ont été installées là, au centre de traitement régional, le CTR. Et donc, actuellement, la capacité d'accueil du CTR est de 297 personnes en même temps sur le site. Et là, avec l'ajout des nouvelles structures, la capacité du site va être augmentée, mais bon, pas doublée non plus, là, à 477. Mais bon, ça ne réglera pas le problème non plus, puisque la durée du séjour sur place varie en fonction de la disponibilité des autres types de logements. On tourne en rond, tu sais. Mais aussi de la complexité de leur dossier. Il y a des personnes migrantes qui peuvent rester là jusqu'à 3 jours dans ces roulottes-là. Mais comme je dis, ça reste une solution de patchage à très, très court terme. Puis ça ne règle pas le problème de l'hébergement à long terme pour que ces personnes-là puissent s'installer et refaire une vie. Puis je terminerai avec une autre solution. Ben, une solution qui n'en est pas
une. Un autre accommodement, disons.
Oui, qu'Ottawa a mis en place là, au début du mois, c'est le transfert d'une centaine de demandeurs d'asile en Ontario, dont un petit nombre à Niagara Falls. C'est une mesure qui est volontaire puis qui est offerte principalement aux personnes là, qui ne souhaitent pas rester au Québec de toute façon. Notre cher ministre de l'Immigration, ton préféré, Mathieu...
Rimond.
Non, c'est Jean Boulet.
Oh, voyons, oui.
Juge évidemment que c'est pas suffisant et exige qu'une beaucoup plus grande part des demandeurs d'asile soient transférés directement vers d'autres provinces. Moi, je trouve que ça commence à ressembler un peu aux demandes de certains pays du sud de l'Europe, comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne. On s'entend avec, à une échelle différente.
Mais
demande envers l'Union européenne. Parce que, bon, même si c'est vrai, tu sais, que oui, ces pays-là, puis à Montréal aussi, on est... sont des gouvernements qui sont débordés par l'arrivée de personnes migrantes. Reste que c'est vraiment une position de pas dans ma cour. Là, fait que,
je pense qu'il en voulait plus qu'une centaine, voulait en plus. Hein?
Qu'ils soient envoyés
en Ontario.
Oui, c'est ça. Puis les chiffres sont pas clairs non plus. On ne sait pas encore éventuellement combien de personnes vont être transférées ailleurs qu'à Montréal.
J'ai hâte à la campagne électorale. Ça va être chic.
Ça va être très, très chic.
Ben, Duhaime va rehausser le débat.
Oui, rehausser le nombre de personnes envoyées à l'extérieur du Québec aussi. Merci, Marie-Ève. On se reparle tantôt pour... on tourne... À la frontière, façon de parler entre l'Afrique et l'Europe tantôt.
Ouais.
Ouais. Je vais vous parler de l'Équateur. Écoutez, c'était un bref retour sur les événements des dernières semaines. On aurait pu en parler pendant 15-20 minutes. Il s'est passé beaucoup de choses en termes de mobilisation et d'action politique. Pour ceux et celles qui ont manqué un peu ce qui s'est passé, ben à partir du 13 juin, un mouvement de protestation contre la hausse des prix, notamment du carburant, a été lancé, ce qui a entraîné un blocage des routes dans plus de la moitié du pays. Le 18 juin, le président a déclaré l'état d'urgence. En réaction, la puissante Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, la CONAI, la plus grande organisation des peuples autochtones du pays, a affirmé que le mouvement se poursuivrait tant que les revendications ne seraient pas entendues. Cette organisation a contribué au renversement de trois présidents équatoriens entre 1997 et 2005 et avait mené les grandes manifestations de 2019 qui avaient chassé aussi un autre dirigeant. Le pays producteur de pétrole est frappé par l'inflation, le chômage et la pauvreté, exacerbés par la pandémie, évidemment. La CONAI exige que le gouvernement réponde à une liste de 10 demandes sur différents enjeux économiques surtout. Entre-temps, les députés équatoriens ont débattu une procédure de destitution du président conservateur Guillermo Lasso après presque deux semaines de violentes manifestations. Ça, c'était vers le 25 juin. Le président a accusé le chef de la CONAI, Leonidas Issa, de vouloir renverser le gouvernement. En même temps, une première tentative de dialogue a eu lieu entre manifestants indigènes et gouvernement équatorien au 13e jour du mouvement. En même temps, le président a annoncé une baisse du prix des carburants, donc la ligne dure, la ligne plus conciliatrice en même temps. Le 29 juin, le président a échappé à la décision. Le vote a été...
De justesse, j'imagine.
80 voix sur 92. Il en fallait 92, il y en a eu 80 qui voulaient sa décision. Mais en même temps, il a suspendu le dialogue avec les contestataires. Il faut rappeler que ce premier président de droite en Équateur depuis 14 ans, c'est un ex-banquier de 66 ans qui est en poste depuis seulement un an, donc Guillermo Lasso. Et finalement, le 30 juin, le gouvernement et les meneurs des manifestations sont parvenus à un accord pour mettre fin aux contestations qui paralysaient le pays. Élaboré sous la médiation de l'Église catholique, cet accord prévoit une baisse totale de 15 cents du prix des carburants, l'une des principales revendications.
15 cents le litre, j'imagine?
Oui, exactement. Ouais, 15 cents le litre, oui, pas... Pas le baril au complet.
Non, c'est ça.
L'une des principales revendications. Puis les manifestants, pour l'essentiel, c'est les paysans vivant dans les montagnes andines et les autochtones de la partie amazonienne du pays. Ils exigeaient depuis le début 40 cents. Nous sommes à eu 15 cents, donc c'est pas tout à fait réglé. L'accord prévoit la mise en place d'un comité de négo, la fin des blocages et manifs dans tout le pays, la levée de l'état d'urgence en vigueur dans quatre régions. Il prévoit également l'abrogation, la révision de deux décrets, le premier sur l'extension de l'exploitation pétrolière en Amazonie, le deuxième sur l'extraction minière. Ça va être à suivre. Le mouvement considère officiellement que la première étape du paro national Équateur est terminée, soulignant que le respect des accords et des engagements signés sera évalué dans 90 jours. Ces violences ont fait 6 morts et plus de 600 blessés en 18 jours de mobilisation, surtout à Quito. Des centaines d'arrestations aussi. Loin des caméras, l'Amazonie, avec ses nombreuses installations pétrolières, a été l'autre épicentre du mouvement qui a fait chuter de près de moitié la production du pétrole en deux semaines. Et il y a eu 1000 puits qui ont été fermés par les manifestants.
Aïe.
Et en terminant, bien, surprise, le procès du leader autochtone Leonidas Issa, dont j'ai parlé tantôt, a débuté le 4 juillet. Il est accusé d'avoir organisé le blocage des routes et fait perdre 1 milliard de dollars à l'économie. Il avait été arrêté le 14 juin, en début de mouvement. Il avait été libéré sous caution 24 heures plus tard. Et là, oups, il y a eu des accusations qui ont tombé après les accords qu'il a négociés avec le gouvernement quand même. Il est accusé de paralysie d'un service public, un délit passible de 3 ans de prison. Donc, c'est vraiment bizarre. Il a négocié tout ce temps-là, il a l'idée, puis il se fait accuser, puis même si, en tout cas, c'est... Mais c'est assuré, l'Équateur, c'est un pays assez intéressant. On pourra en parler plus, éventuellement.
C'est le genre de mouvement qu'on va voir de plus en plus, partout, là, avec, tu sais...
Mais il faut savoir...
La flambée des prix, les dettes des pays qui explosent.
Mais dans les pays du Sud, ça fait longtemps qu'il y a des manifestations contre la vie chère, parce que souvent, c'est géré par le gouvernement, ils le taxent à cause des pénuries. Mm. Donc, eux, ils vivent ça depuis longtemps. En Équateur, il y avait beaucoup de mouvements là-dessus, sur l'eau, entre autres, dans le passé. Donc, Simon?
Ben, le président est toujours en poste, il est accusé, mais...
Chef autochtone qui est accusé.
Okay.
Le président, il a survécu à une procédure de destitution, mais il risque de ne pas faire ses 4 ans. Là, en Équateur, tu ne restes pas très longtemps quand, quand tu fais face aux leaders autochtones.
Que c'est Vaillantono.
Puis il faut dire que les travailleurs, les étudiants étaient aussi dans le mouvement, donc ça grossissait de plus en plus, il n'y avait pas le choix de négocier. Fait que on s'en reparle, les amis de ce pays fort intéressant, l'Équateur. On va aller avec quelques notes de musique. Et puis après, je reçois Simon qui nous parle du Royaume-Uni. On s'en va, on retourne en Europe, puis on va reparler tantôt de l'Europe aussi, mais là, Simon nous fait un bon bloc sur le Royaume-Uni.
Oui, complètement Royaume-Uni, mais je vais peut-être prendre une petite seconde, parce qu'il y a un qui n'a pas échappé à, peut-être pas la décision, mais qui a quitté le pouvoir, c'est au Sri Lanka.
Oui.
Et il y a des photos sur Internet de monde qui se prend en selfie dans le palais présidentiel, sur le lit présidentiel, dans la piscine, tout ça, c'est très réjouissant, ça c'est...
Oui, qui dorment dans les fauteuils Louis XV.
Oui, puis qui font des bombes dans la piscine en marbre, là, c'est assez cool.
On parlera du Sri Lanka dans les prochaines semaines.
Fait que, petit aparté avant de plonger dans les nouvelles en immigration au Royaume-Uni, un presque éditorial sur une de nos chouchous aux apatrides, Priti Patel.
Oui, oui.
Ministre britannique de l'Intérieur, dont on vient d'apprendre qu'elle se retire de la course à la succession de Boris Johnson.
Oh, je suis déçu.
Ah, il y a beaucoup de monde qui sont très contents. Il y a un article de Vice paru le 21 juin dernier qui s'appelle Fakest Person Ever, People from London's Little India on Priti Patel, donc la personne la plus artificielle au monde. Ils vont finalement rencontrer des gens dans South Hall, qui est un quartier à forte concentration de personnes d'Asie du Sud-Est, originaires de là, pour demander ce qu'ils pensent de Priti Patel, dont les deux parents sont nés en Inde. Elle est considérée comme à la droite du Parti conservateur, donc à droite de la droite, sur plein d'enjeux. Elle se décrit elle-même comme une thatcheriste, donc une dame charmante et humaine. Elle est l'architecte, ou au moins la porte-parole, mais probablement l'architecte de l'hallucinant accord UK-Rwanda, dont on a pas mal parlé ici aux Apatrides. Elle a des positions extrêmement dures sur l'immigration, et avec une belle candeur, elle a récemment admis qu'avec les politiques qu'elle met en place, les plus dures dans l'histoire récente du pays, même ses parents auraient eu pas mal de difficultés à immigrer en Angleterre. En fait, ça aurait probablement été impossible pour eux. Donc, ses parents, à Priti Patel, n'étaient pas des immigrants économiques, c'était vraiment des réfugiés. Il faisait partie d'une communauté indo-iranienne qui était établie en Ouganda et qui a été expulsée de l'Ouganda en 1972 par le régime du dictateur Idi Amin. Donc, avec un tel background, pourquoi tant de haine ethnique? Donc, c'est difficile à dire. Il y en a qui parlent d'excès de loyauté envers le pays d'accueil, mais on fera pas de petite psychologie. Allez lire l'article de Vice. C'est vraiment intéressant de voir la perspective de Londoniens d'origine indienne ou de la région du Bangladesh, Sri Lanka, etc. Mais moi, ça me rappelle aussi un certain ministre belge, secrétaire d'État, Sami Madi. On parlait de lui récemment parce qu'il mettait en place une politique qui allait doubler les capacités d'expulsion de la Belgique. Lui, dont le père iranien avait été accueilli comme réfugié en 70. Donc, je serais curieux aussi d'aller demander aux membres de la communauté iranienne de Bruxelles ce qu'ils pensent de Sami Madi. On revient au Royaume-Uni. Lors des 3-4 dernières émissions, on vous a parlé de l'accord Royaume-Uni-Rwanda, qui vise à renvoyer vers le Rwanda à la fois les personnes déboutées pour qu'on les réachemine vers leur pays d'origine et aussi pour installer temporairement les demandeurs d'asile au Royaume-Uni dont la demande est en traitement, en attendant que la réponse arrive. Tout ça moyennant un gros montant versé au gouvernement rwandais, donc à peu près 200 millions de dollars canadiens. L'accord est actuellement bloqué par la Cour européenne des droits de l'homme qui empêche les avions de décoller en émettant des avis défavorables sur l'expulsion de certains individus qui doivent prendre place à bord de certains avions.
Ah, c'est du cas par cas, là, c'est ça?
Oui, ils ont comme utilisé cette façon-là. On va cibler un individu sur un vol, on va émettre un avis défavorable et
ça bloque
l'avion. Ouais. Et en plus, on demande que la légalité de l'accord Royaume-Uni-Rwanda, sa légalité soit démontrée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. J'ai été un peu peu surpris en lisant ça. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Je me demandais si le Brexit n'était peut-être pas encore complètement consommé, je ne sais pas comment dire ça, en vigueur, ou si certaines questions relatives aux migrations sont restées dans le giron européen. Donc, il semble que lors des négociations du Brexit, c'était Londres qui avait demandé à Strasbourg de demeurer membre de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, par contre, il y a quelques jours, le gouvernement toujours de Boris Johnson à cette époque-là, a présenté au Parlement un projet de loi, un Bill of Rights, qui va permettre d'affirmer la suprématie de la Cour suprême britannique sur les instances européennes.
Ah oui.
Donc, sinon, le Rwanda actuellement semble vouloir se positionner assez fièrement comme une terre d'accueil pour les migrants indésirables dans certains pays occidentaux. Le gouvernement de ton préféré, celui de Man in Black, là,
il se targue
d'être un nouvel Eldorado, alors que c'est juste de la sous-traitance pour loger des migrants qui veulent aller dans un autre pays. Alors, il faudrait que M. Kagame lâche la drogue. Il y avait eu un accord semblable entre le Royaume-Uni et Israël il y a quelques années. Là, actuellement, il y en a un entre le Danemark et le Rwanda, qui est en négociation, probablement un peu calqué sur le modèle de celui du Royaume-Uni, même si ça se peut qu'ils ne tiennent pas la route. Là. Pour le Royaume-Uni, on apprenait la semaine passée qu'on avait conclu un nouvel accord avec un deuxième pays africain, le Nigeria.
Oh, terre d'accueil aussi.
Terre d'accueil, un petit paradis terrestre. Là. Il y a déjà eu au moins un vol pour Lagos avec 21 étrangers dits délinquants. Donc, dans ce cas-ci, ça semble être un accord qui va se spécialiser dans les déportations de personnes avec des antécédents criminels présumés ou avérés, ce qui n'est pas le cas de l'accord avec le Rwanda. Donc, autre différence entre l'accord avec le Rwanda et celui du Nigeria, on va expulser des gens de toute nationalité au Rwanda. Envoyer tout au Rwanda. Mais dans le cas du Nigeria, on ne sait pas si ça va seulement ou surtout concerner des ressortissants nigériens ou de la région. Parce que dans le seul vol qu'il y a eu à date, il y avait principalement des Nigériens et quelques Ghanéens. Donc, puis le Ghana, c'est pas limitrophe du Nigeria, mais c'est en Afrique de l'Ouest, là, c'est pas très, très loin.
Okay.
Madame Patel a déclaré que l'accord avec le Nigeria allait rendre les rues des villes anglaises plus sécuritaires. Donc, je sais pas si elle entend aussi déporter les hordes de hooligans très blancs, très violents et complètement sous vers le Nigeria aussi.
Oui, on serait heureux là-bas.
Il y aurait de la job. Mais pour revenir à la présomption de criminalité sur le vol la semaine dernière pour le Nigeria, on précise que sur les 21 migrants déportés, 11 étaient jugés criminels, allégués ou démontrés. Mm-hmm. 10 avaient enfreint des dispositions des lois sur l'immigration. Donc, on va mettre dans le même bateau ou dans le même avion des gens qui ont, par exemple, agressé des personnes et des gens qui sont entrés sur le territoire de manière irrégulière ou qui n'ont pas satisfait à telle exigence bureaucratique dans les délais prescrits.
Ouais.
Donc, c'est une définition de la criminalité ou de la délinquance qui est un peu élastique ou malhonnête. Dernière nouvelle britannique, le gouvernement a décidé d'adopter une nouvelle mesure, des bracelets électroniques pour les demandeurs qui ont foulé le sol britannique de manière irrégulière ou qui, selon les communiqués officiels du gouvernement, emprunte des routes dangereuses et inutiles, pardon.
Inutiles.
Ben ouais, on sait pas pourquoi les gens empruntent des routes aussi dangereuses et inutiles que ça. Donc, comme pour les prisonniers de crimes graves qui sont en probation, on va sceller les appareils de géolocalisation aux jambes des personnes migrantes qui devront aussi se rapporter régulièrement à la police et aux agents d'immigration.
C'est le principe.
Dans un des communiqués officiels, il y a une autre perle de novlangue complètement débile. On dit que le bracelet GPS va permettre de suivre plus efficacement l'avancée des demande d'asile de chaque personne qui le porte.
Ah, bien sûr.
Donc, il faudrait mettre des bracelets, selon moi, aux fonctionnaires des GPS du ministère de l'Immigration britannique, ou peut-être brocher des appareils de géolocalisation aux dossiers, là, aux grosses chemises dans les classeurs. Comme ça, on les perdra pas. Bref, on rit, mais ce sont toutes des dispositions qui sont loin d'avoir les effets dissuasifs voulus. Entre janvier et juin de cette année, on a recensé 777 traversées et tentative de traversée de la Manche impliquant 20 000 personnes migrantes, soit une hausse de 68% par rapport à la même période l'année passée en 2021.
Ça va très bien dans le Royaume-Uni, hein?
Dans le royaume de Petit Prater.
Ils avaient fêté des jubilés, hein?
Ça détourne l'attention.
Donc, on va y aller en musique avec notre deuxième pièce. C'est l'artiste More Mother. Sa pièce s'appelle Arm Save. C'est une membre du collectif de free jazz Irreversible Entanglement de Philadelphie. Elle est très prolifique. Elle produit plein d'albums avec plein de monde. L'album en question s'appelle Jazz Codes. Il est sorti ce mois-ci. C'est à la 9e position du palmarès jazz de Choc. Et il y a plein de collaborateurs sur l'album, dont la flûtiste Nicole Mitchell, qu'on va entendre sur cette pièce. Elle, More Mother, elle fait du rap, du slam, électronique, toutes sortes de trucs. Et j'ai eu la chance de la voir au Festival de jazz de Montréal la semaine passée, avec en plus son groupe Irreversible Entanglement. Donc on y va avec More Mother sur les ondes de choc.ca. Qui s'appelle Jazz Code, c'est en 9e position du palmarès jazzchoc.ca. Donc, je vais vous parler un peu de la Tunisie, ce qui va introduire après, dans la même région, le sujet de Marie-Ève. Donc, depuis 2 mois, une centaine de personnes campaient devant les locaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Tunis pour réclamer leur évacuation du pays et de se faire loger en attendant. Le mouvement de contestation avait débuté en février à Zarzis, avant de se déplacer dans la capitale. La plupart des migrants ont été relogés finalement par l'agence onusienne en Tunisie. Les 50 personnes qui restaient ont accepté de partir, raconte la porte-parole du HCR. Partir volontairement.
Oui, non, c'est ça.
Mais le Forum tunisien des droits économiques et sociaux avance une toute autre version. L'opération a été marquée par des actes d'évacuation forcée, des arrestations, des agressions verbales et physiques et la dispersion de certains membres du groupe, dont des femmes et des mineurs, vers des lieux inconnus. La contestation avait débuté en février dans la ville de Zarzis. Environ 200 demandeurs d'asile avaient installé leurs bagages devant les locaux du HCR après avoir été chassés de leur logement par l'agence onusienne qui disait ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est l'agence eux-mêmes des réfugiés qui les a chassés de leur logement. Mais les exilés, pour la plupart originaires du Soudan, s'inquiétaient de ne pas trouver d'appartement et d'être contraints de vivre à la rue. Les exilés réclamaient également leur évacuation dans un pays tiers, mais la réinstallation est un processus long. En 2021, seuls 76 exilés en Tunisie, on peut bénéficier de ce dispositif.
Quand même.
Donc, sur et sur le carreau, là, les 50 et plus ont bien décidé à continuer le mouvement et ont continué à manifester devant le siège du HCR à Tunis pour avoir un hébergement, mais les autorités leur interdisent de se réinstaller sur place, mettant en avant des questions sanitaires, des prétextes sanitaires.
Bien sûr.
Donc, ça, c'était des nouvelles de fin juin, début juillet. Là, fait qu'on pourra faire un suivi, voir qu'est-ce qui se passe du côté de la Tunisie. Puis, je voulais juste vous dire aussi que les traversées en mer tragiques ou en tout cas continuent. Les autorités tunisiennes ont annoncé récemment avoir secouru 144 migrants au large des côtes. Les exilés majoritairement originaires d'Afrique tentaient de rejoindre l'Europe, évidemment sur des embarcations de fortune. Le sud-est de la Tunisie, notamment entre Sfaf et Zarzis, est connu pour être un lieu de départ des migrants vers l'Italie. Avec l'amélioration des conditions l'été et la crise économique et politique en Tunisie, les exilés tunisiens et de d'autres pays sont de plus en plus nombreux à prendre la mer. On rappelle que l'Italie est un des principaux ports d'entrée en Europe pour les migrants en provenance d'Afrique du Nord. Depuis janvier, plus de 24 500 migrants ont rejoint l'Italie par la mer, selon l'OIM. Il était près de 67 500 l'an dernier. Et depuis le début de l'année, au moins 721 personnes ont perdu la vie en Méditerranée centrale, indique l'OIM, Organisation internationale d'immigration. L'an dernier, près de 2000 exilés ont été portés disparus ou sont morts noyés dans ces eaux de la Méditerranée centrale contre 1400 en 2020. Donc, est-ce que ça va être une année encore plus mortelle, tragique, ça va être à voir. Mais je voulais rappeler un peu les chiffres tant qu'à parler de la Tunisie. Donc, voilà, Maria. Fait que là, tu nous parles de... Oui, il y a du stock, hein? Ceuta et Melilla.
Ben surtout Melilla, en fait, il a fallu que je me concentre sur cette enclave. On vous en a déjà parlé, là, que les tentatives de personnes migrantes pour entrer à Melilla sont nombreuses, sont souvent violemment réprimées. Mais là, le 24 juin, les forces policières marocaines et espagnoles se sont livrées à un véritable massacre.
Ouais,
alors que près de 2000 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont tenté de pénétrer l'enclave là, par la force, armée apparemment de pierres et de marteaux. Donc, on sait, Melilla, c'est une enclave espagnole au Maroc. Selon les autorités locales marocaines, il y a 23 personnes migrantes qui sont mortes, mais il y a des associations qui parlent d'un petit peu plus, là, autour de 27, mais bon. Et des dizaines d'autres ont été blessées, certaines grièvement. Il y a quand même 130 personnes qui sont parvenues à passer la clôture puis à entrer dans le territoire espagnol. Les images amateurs qui circulent des événements là, dans les médias sont vraiment insoutenables et témoignent de la violente répression policière envers les exilés. Amoncellement de corps inertes qui gisent au sol, visages de migrants en souffrance, coups de matraque sur des hommes déjà à terre et jusqu'à ce qu'ils bougent plus du tout. Selon plusieurs témoignages, la police faisait tomber les gens des grillages sans se soucier, en plus, là, tu sais, soit des blessures ou des fractures que ces chutes pouvaient causer. Évidemment, le drame a suscité beaucoup de réactions. D'abord, il y a le maire de Melilla, Eduardo de Castro, qui, tout en reconnaissant là, que l'assaut des migrants, personnes migrantes avait été violent, il dénonce aussi une réponse complètement disproportionnée du Maroc. Il y a les ONG et plusieurs institutions internationales, évidemment, dont l'ONU, qui, elle, réclame une enquête approfondie, indépendante et transparente. Mais une chose qui a été déclenchée là, par la justice, par le gouvernement espagnol, mais ça risque de pas être évident parce que, selon l'Association marocaine des droits de l'homme, des tombes auraient déjà été creusées au cimetière de Sidi Salem, qui est à Nador, une ville limitrophe de Melilla, mais du côté marocain, ce qui laisse penser qu'il s'agirait des lieux où pourraient être enterrés les dépouilles des migrants morts. Et là, l'association accuse les autorités de chercher à cacher le désastre en empêchant qu'il y ait enquête, parce que si les corps sont enterrés, ben disons que les autopsies et les identifications vont être un petit peu plus difficiles. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, lui, a d'abord accusé des mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains d'avoir organisé un assaut violent contre la ville espagnole, ce qui est faux, selon les experts. Mm-hmm. Selon toujours l'Association marocaine des droits de l'homme, il n'y a pas du tout de trafic humain à Melilla. L'entrée dans l'enclave est gratuite et donc pas besoin de passeur pour escalader la clôture. Ce sont les migrants plus pauvres qui utilisent cette voie-là. Il y a des, bel et bien des réseaux de trafic présents dans d'autres endroits du Maroc, mais pas vers Melilla. Donc, ce qu'on dit, c'est que les autorités espagnoles sont dans une logique de sécurité et qu'elles analysent la situation dans une perspective uniquement sécuritaire. Mais bon, de toute façon, il n'y a rien qui peut... Ça ne justifie pas non plus les morts et les blessés. Comme je disais, le ministère public espagnol, le 28 juin, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Quant au Maroc, ben là, à Rabat, il y a eu des manifestations devant le bureau du Haut Commissariat. Ça fait un peu...
Comme à Tunis.
Ouais, c'est ouais. Ça, de l'ONU, contre le traitement inhumain qui a été infligé là, par les forces de l'ordre marocaines le 24 juin, puis pour réclamer aussi un statut de réfugié. Mais au lieu de réfléchir aux raisons réelles qui ont conduit à la mort de 23 personnes, le Maroc a préféré mettre les migrants sur le banc des accusés. Il y a un tribunal de la ville de Nador qui a inculpé 37 personnes migrantes pour entrée illégale sur le sol marocain, violence contre agents de la force publique, attroupement armé et refus d'obtempérer. Il y a un autre groupe de 28 migrants qui va aussi être jugé, entre autres, pour participation à une bande criminelle en vue d'organiser et faciliter l'immigration clandestine à l'étranger. Et suite aux affrontements, des personnes migrantes blessées ont été envoyées dans des villes du Maroc situées loin de Melilla. C'est évidemment une stratégie là pour de dispersion, sauf que c'est pas vraiment une solution, mais c'est temporaire. Les personnes migrantes vont clairement revenir.
Oui, puis c'est un peu une façon de ne pas avoir leur témoignage, hein, les envoyer loin.
Aussi, c'est ouais. Ça. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour dire que, en fait, c'est la pression, ce qui est derrière tout ça, était prévisible et que c'est la pression des autorités qui a généré cette violence-là sans précédent. C'est que près de Melilla, il y a des centaines de migrants, migrantes qui attendent parfois pendant des mois avant de pouvoir passer en Espagne, en espérant pouvoir passer en Espagne. Ils survivent dans les forêts du Mont Gourougou, dans des abris de fortune là, de tôles, de bâches et de bois. D'ailleurs, ce campement-là avait été attaqué par la police quelques jours avant le massacre du 24 juin. Les organisations de défense des droits humains marocaines rappellent aussi la multiplication des arrestations, du ratissage des campements, des déplacements forcés d'exilés, en particulier les semaines avant le 24 juin. Elles font aussi un lien direct entre ce renforcement-là de la répression et la reprise de la coopération en matière de sécurité et de contrôle de l'immigration entre l'Espagne et le Maroc en mars 2022, après la fameuse crise diplomatique entre les deux pays. Là. Si vous vous rappelez, là, l'Espagne avait accueilli le chef du Front Polisario. Puis là, ben, après ça, le Maroc avait riposté en laissant passer 8000 migrants dans l'enclave de Ceuta en mai 2021. Bref, là...
Toute l'histoire du Sahara occidental. Là.
Ouais. C'est ça. Ouais. Et les associations témoignent aussi du harcèlement et des formes de violence systématiques subies par les personnes en migration dans la région de Nador depuis des années, privation de l'accès aux médicaments, campements brûlés, biens saisis, denrées alimentaires détruites et même le peu d'eau potable qui est à leur disposition dans les campements est aussi confisqué. Puis là, dernièrement, il semblerait qu'il y ait un nouveau mode opératoire qui a été utilisé pour décourager les migrants de rester dans la région, c'est-à-dire inciter les commerçants locaux qui sont près des campements à ne plus vendre de nourriture aux migrants, les privant de moyens de survie. Mais au lieu de les décourager de passer vers Melilla, cette pression policière-là, en fait, jusque dans les tentes des migrants, aurait eu le 24 juin l'effet inverse. Ouais. On dit que ça a provoqué une espèce de tentative jusqu'au boutiste de traverser, tu sais, de la part de ces des personnes-là,
ben oui,
qui de toute façon étaient délogées de leur mode de vie déjà extrêmement précaire.
Mm-hmm.
C'est quand même ironique aussi que ce drame-là soit survenu 2 jours à peine après que la Commission européenne se soit félicitée des progrès réalisés autour du pacte sur l'asile et la migration, et que en plus les membres de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, se soient mis d'accord sur l'importance des camps et du tri expéditif à toutes les frontières. Dans ce contexte-là, il y a le réseau Migre Europe qui dénonce le massacre comme étant une étape supplémentaire dans la guerre aux migrants-migrantes qui est menée depuis des décennies par l'Union européenne et ses États membres et ses partenaires. Le réseau va encore plus loin en affirmant que ça témoigne en fait une nouvelle fois du, je cite, « permis de tuer donné à la Garda civile espagnole et aux forces auxiliaires marocaines pour défendre la frontière espagnole et européenne ». Mais ultimement, ce qu'on dit aussi, puis je vais terminer là-dessus, c'est que les responsabilités du massacre de Melilla incombent pas seulement à l'Espagne et au Maroc. Je vais citer Migre Europe encore en terminant, parce que c'est assez fort comme déclaration. Alors, ça va comme suit. En voulant entretenir l'illusion d'une compatibilité entre les politiques d'immigration menées depuis des décennies par l'Union européenne et le respect des droits humains, c'est l'ensemble des dirigeants des États membres et des institutions européennes qui sont coupables. Coupables d'entretenir un régime migratoire qui ne peut que produire cette violence raciste aux frontières. Loin des barrières frontières de Melilla, le choix de Bruxelles et des capitales européennes d'exclure la grande majorité des ressortissants et ressortissantes africaines de la possibilité d'entrer régulièrement sur le territoire européen crée les conditions structurelles de ce type de drame qui se répète depuis 20 ans. Le contraste observé avec l'accueil réservé depuis mars 2022 aux personnes fuyant l'Ukraine illustre encore davantage le caractère raciste de ces drames.
C'est très clair. Et puis deux pays qui tuent des gens pour protéger une clôture métallique, là, faut quand même être aller très, très loin dans la logique. Là.
C'est ça.
Puis on ne sait pas trop comment sont morts non plus tant que ça. Il y a coup de
ben, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène, fait que bon, peut-être comme ça. Il y en a qui se sont fait matraquer, comme je disais. Probablement à mort, là, jusqu'à les personnes.
Donc, ils sont tombés.
Voilà.
Parce que les Espagnols ont lancé des lacrymos, les Marocains tapaient à coups de matraque. Non,
ouais.
C'est vraiment. OK, ben écoute, on va en parler sûrement, oui?
Oui, non, ben je sais qu'il y a, il y a 2 ou 3 policiers aussi qui sont morts, qui ont perdu la vie dans les échauffourées. Là,
mais, échauffourées.
Échauffourées, oui, pardon, pas échauffourées.
Merci, Marie, qu'on a parlé de Melilla et non pas de Ceuta, mais on parlera de cette région-là dans les prochaines semaines sûrement. On va aller écouter quelques notes de musique et on revient avec la conclusion de l'émission. C'est la dernière pièce musicale et aux infos sur l'émission. Je vais vous parler de la régularisation des migrants parce que c'est le thème de la manifestation en fin de semaine qui se passe à Montréal et aussi dans d'autres villes au Canada. Mais il y a une petite nouvelle d'Allemagne qui est intéressante, même si, bon, faut pas virer fou non plus, là, mais Berlin va permettre aux migrants vivant depuis plus de 5 ans en Allemagne avec le statut de Duldung, je vais vous expliquer c'est quoi après, une résidence tolérée, d'obtenir un permis de séjour longue durée. Environ 130 000 personnes seraient concernées. Donc, c'est une petite partie des personnes demandeuses d'asile en Allemagne. Nombre de ces demandeurs d'asile déboutés ne peuvent pas être envoyés dans leur pays d'origine, soit parce qu'ils ne peuvent pas prouver leur nationalité, soit parce que le pays d'origine ne souhaite pas qu'ils reviennent. Ce projet de loi adopté en Conseil des ministres est une réforme attendue par les organismes d'aide aux étrangers et le patronat confronté à un manque criant de main-d'œuvre. Le texte fait partie d'un ensemble de propositions en matière de migration qui pourraient être votées à la rentrée parlementaire à l'automne. On va en parler, il y aura pas mal de stock en Allemagne. La Duldung est une résidence tolérée, se traduit par une autorisation provisoire de séjour en Allemagne pour une période limitée. Elle est généralement délivrée en raison d'obstacles à l'expulsion d'une personne qui n'a pas obtenu de protection internationale. Ces obstacles peuvent être l'absence de papiers ou une maladie grave. L'obligation de quitter l'Allemagne reste toujours toutefois maintenue. Et cette autorisation de séjour est valide pour une courte période, mais peut être renouvelée à répétition. Un migrant se voit ainsi délivrer plusieurs Duldung. Certains vivent depuis plusieurs années en Allemagne avec ce statut, ont un travail, mais restent dans l'incertitude d'une éventuelle expulsion. Mais ce ne sera pas facile parce que les gens qui, les 130 000 personnes qui sont visées, elles pourront obtenir un permis de séjour d'un an, le temps de prouver notamment qu'elles peuvent se prendre en charge financièrement et disposent de connaissances suffisantes en allemand. À l'issue de cette période d'un an, elles pourront recevoir un titre de séjour définitif. Fait que là, beaucoup d'obstacles encore pour une petite partie des personnes arrivées, entre autres, depuis 2015. Fait que ça m'amène à la manif de Solidarité sans frontières de ce dimanche 17 juillet, 14h, place Émile-Gamelin, à Montréal. Un statut pour tous et tous. Enfin, on sait que le gouvernement fédéral va de l'avant avec un nouveau projet de programme de régularisation des sans-papiers. C'est annoncé. Dans l'appel à la manifestation, ils disent, les organisateurs disent, nous croyons que ce programme doit inclure toutes les personnes migrantes sans-papiers, pas seulement ceux et celles qui sont utiles à l'économie. Aucune exception, tous les êtres humains méritent un statut égal. Selon le Migrants Rights Network, ça pourrait toucher 1,7 million de personnes. C'est le nombre approximatif de personnes sans statut ou de statut précaire au Canada. Il y a eu deux choses. C'est que le Parlement a voté une motion unanime il y a quelques semaines pour demander au ministre de l'Immigration, Sean Fraser, de créer un plan, de déposer un plan pour le 8 septembre pour la résidence permanente pour l'ensemble des travailleurs et étudiants temporaires, tous les gens qui ont un statut quand même officiel temporaire. Et deuxièmement, le gouvernement a demandé aussi au ministre de l'Immigration de créer ou de réfléchir à un plan de régularisation plus large qui considérait tout le monde. Ça n'a pas été voté au Parlement. C'était au Conseil des ministres, ça a été discuté, là.
Je ne sais pas si Québec a réagi, mais ça devait pousser des cris.
Oui, puis on va reparler au Parlement électoral. Puis là, je finis le
communiqué. On va dans la foire à dire.
Je pense qu'on va faire une émission par deux jours. Et je finis avec l'appel de SF qui dit justement, au moment où le Québec se dirige vers une élection, le parti au pouvoir, la CAQ, attise une fois plus les sentiments anti-immigrants xénophobes parmi sa base pour gagner des votes. Les antiracistes ne doivent pas permettre que ces préjugés sabotent tout le programme éventuel avenir. Mais moi, je trouve les groupes comme Migrants Rights Network et SSF assez optimistes parce que c'est une motion à l'Assemblée nationale, une rumeur au Conseil des ministres, mais avec Trudeau et sa gang, enfin. Fait qu'aller manifester dimanche pour ce programme-là. Ça se passe à Kitchener, Toronto, Montréal, dans plusieurs villes, Edmonton. Et voilà.
C'est à quelle heure déjà?
À 14h à Montréal le dimanche 17 juillet.
À la place Émile-Gamelin, ouais, c'est ça?
Oui, métro Berry. Donc, voilà. Fait qu'on va se laisser avec de la musique. Mais juste vous dire avant que c'est la fin de l'émission. Merci, Marie-Ève. Merci, Simon.
Merci, Mathieu.
Ça fait plaisir. Très bonne émission.
Merci, Marie-Ève. Merci, Mathieu.
OK, parfait. Merci à l'auditoire, au public. Donc, vous pouvez nous écouter en tout temps sur notre balado, sur notre page sur le site de Choc. On a une page FB pour les informations. On a un courriel à patrizanonyme@resist.ca. On a un site Internet à patrizanonyme.info. Sinon, nous, on va se reparler dans 4 semaines, c'est-à-dire le 11 août, parce qu'on prend une émission de congé pour des vacances et profiter de l'été, même si l'actualité ne nous lâche pas.
On ne prend pas de vacances.
Donc, on va terminer avec le groupe La Sensation, King Gizzard and the Lizard Wizard, la pièce Evilus Men. Leur album Omnium Gatherum est sorti en avril dernier. C'est un groupe de Melbourne en Australie qui fait du garage, psych, pop, prog un peu. Ils sortent plusieurs albums par année, c'est comme une espèce de collectif. Ils sont les chouchous de la scène rock alternative actuellement un peu partout sur la planète. Et ils seront à l'Olympia de Montréal, rien de moins, en octobre prochain, en tournée nord-américaine à l'automne. Donc, ça a été dans le palmarès de Choc il y a quelques semaines, mais là, ça ne l'est plus, vu que ça date d'avril. Fait qu'on va se laisser là-dessus.
Hey, tu l'as bien dit, le nom du groupe?
King Gizzard and the Lizard Wizard.
Tu l'as mieux dit que Irreversible Entanglement.
Merci, Marie-Ève. Donc, bonne soirée à tout le monde. On s'en va prendre une bière puis chicaner. Donc, on se laisse avec quoi, Marie-Ève?
King Gizzard and the Lizard. Tu vois, moi, ça, c'est
le Lizard Wizard.
Lizard Wizard.
Bonne soirée.